Chapitre 13. À l'heure habituelle, dans les corridors de la prison, résonnèrent les sifflets des gardiens. Les portes de fer des salles s'ouvrirent, des bruits de pas se firent entendre, les corridors furent remplis de la puanteur des cuveaux portés à l'égout. Prisonniers et prisonnières se vêtirent, furent passés en revue, et après la revue, s'assirent sur leur lit pour boire leur thé. Dans toutes les salles, ce jour-là, les conversations furent particulièrement animées. Elle roulait sur l'événement du jour, la bastonnade qui devait être donnée à deux prisonniers. L'un de ces prisonniers était un jeune homme intelligent et instruit, un commis nommé Vassiliev, condamné pour avoir tué sa maîtresse dans un accès de jalousie. Tous ses camarades de chambrée l'aimaient pour sa gaieté, sa libéralité et pour la façon dont il savait tenir tête aux gardiens, car il connaissait à fond le règlement et n'admettait pas qu'on y manquât jamais. Aussi les gardiens et les surveillants, au contraire, ne pouvaient-ils pas le souffrir. 3 semaines auparavant, un gardien avait frappé un des prisonniers qui, en passant, avait renversé de la soupe sur son uniforme neuf. Vassiliev était intervenu pour son camarade, disant que le règlement défendait de frapper les prisonniers. « Le règlement ? Je vais te l'apprendre, moi, le règlement, » avait répondu le gardien, et il s'était mis à injurier Vassiliev. Celui-ci avait répliqué sur le même ton. Le gardien avait voulu le frapper, mais Vassiliev lui avait pris les deux mains, l'avait tenu ainsi quelques instants, puis l'avait repoussé hors de la salle. Le gardien s'était plaint, et l'inspecteur avait condamné Vassiliev au cachot. Les cachots étaient une rangée de cellules noires, fermées du dehors à double verrou. Dans ces noires et froides cellules, il n'y avait ni lit, ni table, ni chaise, de sorte que le prisonnier devait s'asseoir et coucher sur le plancher sale, où, tout autour de lui, et même sur lui, couraient des rats si nombreux et si hardis que le prisonnier ne pouvait pas garder un morceau de pain sans qu'ils vinssent le lui dérober des mains. Vassiliev avait déclaré qu'il n'irait pas au cachot, n'étant pas coupable. On l'avait emmené de force. Il s'était débattu, et deux de ses camarades l'avaient aidé à s'échapper des mains des gardiens. Ceux-ci avaient alors demandé du renfort, et appelé notamment un certain Petrov, renommé pour sa force. Les 3 prisonniers rebelles avaient été repris et remis au cachot. Un rapport avait été aussitôt adressé au gouverneur, où l'affaire était présentée comme un commencement de révolte. En réponse était venu du palais du gouverneur un ordre condamnant les 2 principaux coupables, Vassiliev et un rôdeur nommé Nepomniak, à recevoir chacun 30 coups de verge. La bastonnade devait avoir lieu ce matin-là même, dans le parloir des femmes. Depuis la veille, toute la prison savait la nouvelle, et dans les diverses salles, à l'heure du thé, il n'était pas question d'autre chose. La Korableva, la Beauté, Fenichka et la Maslova étaient assises dans leur coin favori et bavardaient, toutes 4 rouges et animées, ayant déjà bu de l'eau-de-vie qui, à présent, grâce à l'argent de la Maslova, ne cessait plus de couler pour elles. Elles buvaient leur thé et s'entretenaient de la bastonnade. « Comme s'ils s'étaient révoltés, » dit la Korableva, mordillant de ses fortes dents un morceau de sucre. « Il n'a fait que prendre la défense d'un camarade. On n'a plus le droit aujourd'hui de frapper pour cela. » « On dit qu'il est très jeune et très brave, » ajouta Fenichka, tout en continuant de surveiller la théière. « Tu devrais lui parler du pauvre garçon, Mikhailovna, » dit à la Maslova la garde-barrière. Par le mot « lui », elle entendait Nekhludov. « Bien sûr que je lui en parlerai. « Il est prêt à tout faire pour moi, » répondit la Maslova avec un sourire vaniteux. « Mais Dieu sait quand il viendra, et on dit qu'on est déjà allé chercher Vassiliev, » dit Fenichka. « C'est affreux, » reprit-elle en soupirant. « Moi, un jour, j'ai vu battre un homme au bailliage. On m'avait envoyé chez le beau-père du chef de gare, et voilà qu'en arrivant au bailliage, et la garde-barrière entama une longue histoire. Mais son histoire fut brusquement interrompue par des bruits de pas et de voix dans le corridor de l'étage supérieur. Les femmes se turent, tendirent l'oreille. « Ils l'ont emmené, les diables !» déclara la beauté. « Ils vont le tuer maintenant. » Avec ça que les gardiens sont furieux contre lui parce qu'il les empêche d'agir à leur tête. Au-dessus, tout redevint silencieux. La garde-barrière reprit son histoire, racontant comment, devant elle, sous un hangar, on avait fouetté à mort un moujik, et comment, à cette vue, ses entrailles avaient sauté dans son ventre. La beauté raconta comment on avait battu Tcheglov sans qu'il fît entendre une plainte. puis Fenichka desservit le thé. La Korableva et la garde-barrière reprirent leur couture, et la Maslova s'étendit sur son lit, les genoux relevés. Elle s'apprêtait à faire un somme pour se désennuyer, lorsque la surveillante vint lui dire d'avoir à se rendre au bureau, où il y avait une visite pour elle. « Ne manque pas de lui parler de nous, » dit la vieille dévote à la Maslova, pendant que celle-ci arrangeait ses cheveux devant une glace à demi dépolie. « Tu lui diras que ce n'est pas nous qui avons mis le feu, mais le cabaretier lui-même, ce brigand. Qu'un ouvrier l'a vu. Tu lui diras qu'il fasse appeler Mitri. Mitri lui expliquera tout, clair comme la paume de la main. Que nous, on nous a mis en prison, qui n'avons rien fait. Tandis que lui, le brigand, il fait le tsar dans son cabaret avec la femme d'autrui, et que mon vieux n'a personne pour lui nettoyer ses poux. Je le lui dirai, sans faute, je le lui dirai, répondit la Maslova. Allons, ajouta-t-elle, buvons encore un coup pour nous donner de l'aplomb. La Korableva lui versa un verre d'eau-de-vie. La Maslova le vida d'un trait, s'essuya la bouche, et, avec le même sourire joyeux avec lequel elle avait demandé à boire pour se donner de l'aplomb, elle rejoignit la surveillante qui l'attendait dans le corridor. Chapitre 14. Nekhludov était déjà depuis longtemps dans la prison. Arrivé de très bonne heure, il avait montré au factionnaire, puis à un gardien, l'autorisation du procureur. « Impossible en ce moment, » déclara le gardien. « Le directeur est occupé. »« Au bureau ?» demanda Nekhludov. « Non, ici, au parloir, » répondit le gardien avec un certain embarras. « Est-ce que c'est jour de visite ?»« Oh non, c'est pour une autre affaire. »« Et comment ferai-je pour voir le directeur ?»« Vous n'avez qu'à attendre ici. Tout à l'heure, quand il passera, vous le verrez. » Quelques minutes après, Nekhludov vit entrer dans la salle où il se trouvait un jeune sous-officier aux galons étincelants, tout fringant et la moustache relevée, qui, en l'apercevant, se tourna sévèrement vers le gardien. « Pourquoi avez-vous laissé entrer du monde ici? Il fallait envoyer au bureau. »« On m'a dit que le directeur allait passer par ici. J'ai à lui parler, » dit Nekhludov, surpris de découvrir sur le visage du sous-officier la même expression embarrassée qu'il avait frappée déjà chez le gardien. À cet instant, la porte par laquelle était entré le sous-officier s'ouvrit de nouveau, et un gardien entra, un colosse, tout échauffé, le visage en sueur. C'était le fameux Petrov. « Il se la rappellera, celle-là, » déclara-t-il en s'adressant au sous-officier. Mais celui-ci le fit remarquer, d'un signe de tête, la présence d'un étranger, et Petrov, sans ajouter un mot, sortit par une autre porte. « Qui est-ce qui va se rappeler quelque chose ?» « Et pourquoi ont-ils tous l'air si gênés ?» se demandait Nekhludov. « On n'attend pas ici. Veuillez aller au bureau, » lui dit le sous-officier. Et déjà Nekhludov se préparait à sortir, lorsqu'il vit entrer par la même porte que les deux autres, le directeur de la prison. Celui-là semblait plus gêné encore que ses subordonnés. Il avait le visage décomposé d'émotion. Nekhludov l'aborda, lui montra le permis du procureur. « Fedotov !» cria aussitôt le directeur à un des gardiens. « Allez tout de suite chercher la Maslova, 5e salle des femmes, qu'on la conduise au parloir des avocats. » Puis, se tournant vers Nekhludov, « Voulez-vous me permettre de vous accompagner ?» Ils montèrent un escalier tournant et pénétrèrent dans une petite pièce meublée d'une table et de quelques chaises. Le directeur s'assit. « Quel dur métier ! Quel dur métier !» dit-il avec un soupir, pendant qu'il tirait de son étui une grosse cigarette. « Vous paraissez fatigué, » demanda Nekhludov. « Je suis fatigué de tout mon service. Ce sont vraiment des obligations trop dures. On voudrait adoucir le sort de ces misérables, et tout ce qu'on fait tourne à plus mal encore. Si, du moins, je voyais un moyen de m'en aller d'ici. Dur, dur métier. » Nekhludov ignorait en quoi consistaient les difficultés de la tâche du directeur. Mais sans le connaître, il crut sentir en lui, ce jour-là, une souffrance exceptionnelle, une disposition particulièrement triste et découragée. « Oui, je n'ai pas de peine à croire que c'est un dur métier, » lui dit-il. « Mais s'il vous met dans un tel état, pourquoi n'y renoncez-vous pas ?»« Le manque de fortune, la famille. » Il s'arrêta un instant, puis reprit. « Et ce n'est pas tout. Car enfin, dans la mesure de mes forces, je fais tout de même ce que je peux pour adoucir le sort des prisonniers. » Et sur certains points, j'y parviens. Tandis qu'un autre, à ma place, aurait une toute autre façon de les traiter. Croyez-vous que ce soit peu de chose d'avoir à diriger près de 2000 personnes, et des personnes de cette espèce? Il faut savoir comment les prendre. Ce sont des hommes, on ne peut s'empêcher de les plaindre. Mais si on les gâte, tout est perdu. » Et le directeur se mit à raconter une aventure récente, une lutte entre deux prisonniers qui avait fini par la mort de l'un d'eux. Son récit fut interrompu par l'entrée de la Maslova en compagnie d'un gardien. Nekhludov la vit dès le seuil avant qu'elle-même s'aperçût de la présence du directeur. Son visage était rouge et enflammé. Elle marchait vivement derrière le gardien, sans cesser de sourire et de secouer la tête. En apercevant le directeur, elle s'arrêta un instant devant lui d'un air effrayé, mais aussitôt après, elle se tourna gaiement vers Nekhludov. « Bonjour !» lui dit-elle toute souriante, et au lieu de toucher simplement sa main, comme l'autre fois, elle la lui serra avec force. « Je vous ai apporté à signer votre pourvoi en cassation, » dit Nekhludov, étonné de la voir si animée. « C'est l'avocat qui a rédigé le pourvoi. Vous n'avez qu'à le signer, et nous l'enverrons à Pétersbourg. » « Eh bien, nous allons signer cela. Rien de plus simple. » Elle continuait à sourire, et un de ses yeux louchait plus qu'à l'ordinaire. Nekhludov tira de sa poche la feuille de papier et s'approcha de la table. « Est-ce qu'on peut signer cela ici ? » demanda-t-il au directeur. « Allons, assieds-toi là, » dit le directeur à la Maslova. « Voici une plume et de l'encre. Sais-tu écrire ?»« Oh, je l'ai su autrefois, » répondit-elle avec un sourire à l'adresse de Nekhludov. Puis, après avoir relevé sa jupe et retroussé ses manches, elle s'assit devant la table, prit énergiquement la plume de sa petite main, et se retournant vers Nekhludov avec un nouveau sourire, elle lui demanda ce qu'elle devait faire. Il lui expliqua où et en quels termes elle devait signer. « Et c'est tout ? » demanda-t-elle quand elle eut fini, en regardant tour à tour Nekhludov et le directeur. « J'ai encore quelque chose à vous dire, » répondit Nekhludov en lui ôtant la plume de la main. « Eh bien, dites !» Et soudain, son visage redevint sérieux, comme si une rêverie lui était passée par l'esprit, ou encore comme si elle s'était sentie prise d'une somnolence. Le directeur se leva et sortit de la chambre. Nekhludov resta en tête-à-tête avec la Maslova. L'instant décisif était enfin venu pour Nekhludov. Il n'avait pas cessé de se reprocher que, dès sa première entrevue avec la Maslova, il n'eût pas osé lui dire la chose principale, qui était son intention d'expier sa faute en l'épousant. Mais cette fois, quoi qu'il pût arriver, il lui dirait tout. Il en prit une fois de plus la résolution en s'asseyant en face de la prisonnière, de l'autre côté de la table. La pièce où il se trouvait était claire, et Nekhludov put observer à loisir le visage de la Maslova. Il vit des rides autour des yeux et de la bouche, le gonflement des paupières, l'aspect général d'usure précoce et de dégradation. Et il se sentit plus pénétré encore de tristesse, et sa pitié pour elle s'accrut encore. Se plaçant devant la table de façon à ne pas être vu ni entendu du gardien qui avait amené la Maslova, et qui restait assis dans le recoin de la fenêtre, à l'autre extrémité de la pièce, Nekhludov se pencha vers la Maslova et lui dit « Si le pourvoi en cassation ne réussit pas, nous adresserons un recours en grâce à l'empereur. Nous ferons tout ce qui sera possible. » « Quel malheur que vous ne m'ayez pas retrouvé plus tôt. Vous m'auriez procuré un bon avocat, tandis que celui que j'ai eu, l'imbécile, est cause de tout. Tout le monde me fait des compliments à votre sujet, » ajouta-t-elle, et elle se mit à rire. « Ah, si on avait su, le jour du jugement, que vous me connaissiez, la chose aurait tourné tout autrement. Tandis que sans cela, eh bien, se sont-ils dit, ce n'est qu'une voleuse. » « Comme elle est étrange aujourd'hui, » songea Nekhludov. Il allait cependant aborder le grand sujet, lorsque de nouveau elle prit la parole. « Écoutez un peu ce que j'ai à vous dire. Il y a dans notre salle une vieille femme que personne ne peut la voir sans en être émerveillé. Une petite vieille extraordinaire comme vous n'en verrez pas deux. Et voilà qu'on l'a condamnée, Dieu sait pourquoi, avec son fils. Et tout le monde sait qu'ils sont innocents. Et voilà qu'on les a accusés d'avoir mis le feu. Alors voilà qu'elle a entendu dire que je vous connaissais. Et alors voilà qu'elle me dit « Dis-lui, ma colombe, de parler à mon fils. Il lui expliquera tout. Menchov, c'est leur nom de famille. Si vous saviez, une petite vieille si extraordinaire. On voit bien tout de suite qu'elle n'est pas coupable. N'est-ce pas, mon chéri, que vous vous en occuperez ? » dit-elle, en le regardant au fond des yeux avec un sourire familier. Fort bien, je m'en occuperai, je m'informerai, répondit Nekhludov, de plus en plus surpris de la trouver si expansive. Mais je voudrais m'entretenir avec vous d'une affaire personnelle. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre jour ? Vous m'avez dit tant de choses l'autre jour. Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Demanda-t-elle. Elle ne cessait pas de lui sourire, et penchait la tête tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. « Je vous ai dit que j'étais venu pour vous prier de me pardonner, » dit-il. « Mais oui, c'est parfait, il n'y a rien à pardonner. Vous feriez mieux. J'ai encore à vous dire, » poursuivit Nekhludov, « que je veux réparer ma faute. Et la réparer non pas par des paroles, mais par des actes. Je suis résolu à vous épouser. » À ces mots, le visage de la Maslova prit de nouveau une expression de frayeur. Ses yeux cessèrent de loucher et se fixèrent avec sévérité sur ceux de Nekhludov. « Il ne manquait plus que cela, » dit-elle d'un ton mauvais. « J'ai le sentiment que devant Dieu, je dois le faire. » « Et le voilà qui parle de Dieu, » partit le marché. « Dieu ? Quel Dieu ? Vous auriez mieux fait de penser à Dieu autrefois, le jour où... » Et elle s'arrêta, la bouche ouverte. Nekhludov sentit alors pour la première fois la forte odeur d'eau de vie qui s'exhalait de sa bouche, et il comprit la cause de son animation. « Calme-toi, » dit-il. « Je n'ai pas besoin de me calmer. » « Tu crois que je suis ivre ? Eh bien oui, je suis ivre, mais je sais ce que je dis, » répliqua-t-elle d'un seul trait, et tout son sang lui monta au visage. « Moi, je suis une fille publique, une condamnée au bagne, et vous, un seigneur, un prince. Vous n'avez rien à faire avec moi. Va-t'en rejoindre tes princesses. Si cruellement que tu me parles, tes paroles n'en sont rien auprès de ce que je sens moi-même, » répondit tout bas Nekhludov en tremblant. Tu ne peux pas te figurer à quel point j'ai conscience de ma faute envers toi. « Conscience de ta faute !» reprit-elle avec un rire méchant. « Tu n'en avais pas conscience quand tu m'as glissé ces 100 roubles. » « Je sais, je sais. Mais à présent, que faire ? À présent, je me suis juré de ne pas t'abandonner. Et ce que j'ai dit, je le ferai. Et moi, je te dis que tu ne le feras pas. « Katyusha !» fit Nekhludov en essayant de lui prendre la main. « Ne me touche pas !» Je suis une condamnée au bagne. Toi, tu es un prince. Tu n'as rien à faire ici, cria-t-elle, folle de colère en retirant sa main. Va-t'en d'ici, reprit-elle. Je te déteste. Tout de toi me dégoûte. Et ton lorgnon, et toute ta sale figure pleine de graisse. Va-t'en, va-t'en d'ici. Et d'un mouvement rapide, elle sauta sur ses pieds. Le gardien s'approcha d'elle. Qu'est-ce que tu as à faire du scandale? Laissez-la, je vous prie, dit Nekhludov. « Je t'apprendrai, moi, à t'oublier comme ça, » reprit le gardien. « Je vous en prie, attendez une minute encore. » Le gardien s'éloigna et alla de nouveau s'asseoir près de la fenêtre. La Maslova se rassit. Elle baissa les yeux et se mit à jouer fiévreusement avec les doigts repliés de ses petites mains. Nekhludov se tenait debout près d'elle, ne sachant que faire. « Tu ne me crois pas ? » demanda-t-il. « Qu'est-ce que je ne crois pas ? Que vous voulez vous marier avec moi ? Non, non, jamais cela n'arrivera. J'aimerais mieux me pendre. Voilà pour vous. N'importe, je n'en continuerai pas moins à te servir. Ça, c'est votre affaire. Seulement, je n'ai aucun besoin de vous, aussi vrai que je vous le dis. Pourquoi ne suis-je pas morte dans ce temps-là ? Ajouta-t-elle. Et elle fondit en larmes. Nekhludov voulut lui parler, mais il ne put. La vue de ses larmes lui déchirait le cœur. Au bout d'un instant, elle releva les yeux, jeta un coup d'œil sur lui, comme étonnée, et se mit à essuyer avec son fichu les larmes qui coulaient sur ses joues. Le gardien, s'approchant de nouveau, déclara que le moment était venu de la reconduire. « Vous êtes aujourd'hui tout agité. Demain, si c'est possible, je reviendrai. Et vous, en attendant, vous réfléchirez, » dit Nekhludov. Elle ne répondit rien, et sans le regarder, elle sortit avec le gardien. « Oh, bien, ma petite, tu vas être tirée d'affaire maintenant, » dit la Korableva à la Maslova lorsque celle-ci entra dans la salle. « Il saura bien te faire sortir d'ici. Aux gens riches, tout est possible. »« Ça, c'est bien vrai, » reprit de sa voix chantante la garde-barrière. « L'homme riche, il n'a qu'à désirer une chose, tout arrive comme il le veut. Il y en avait un chez nous. Lui avez-vous parlé de moi ?» demanda la petite vieille. Mais la Maslova, sans répondre à personne, s'étendit sur son lit, et les yeux fixés devant elle, resta étendu jusqu'au soir. Ce que lui avait dit Nekhludov avait réveillé en elle la vision d'un monde où elle avait souffert et dont elle était sortie, et qu'elle s'était mise à haïr et qu'elle croyait avoir oublié à jamais. Maintenant, cet oubli où elle avait vécu s'était dissipé. Mais d'autre part, le clair souvenir du passé lui était insupportable. Vers le soir, elle acheta de nouveau une demi-bouteille d'eau-de-vie et la vida avec ses compagnes. « Voilà donc ce qu'il en est », se disait machinalement Nekhludov, en suivant les longs corridors de la prison. C'était maintenant seulement que, pour la première fois, il se rendait compte de l'étendue de sa faute. S'il n'avait pas essayé de racheter sa faute, de la réparer, jamais il n'en aurait senti toute l'étendue. Et elle non plus, Katyusha, jamais elle n'aurait senti l'immensité du mal qu'il lui avait fait. Pour la première fois, tout cela venait au jour, dans son horreur. Jusque-là, Nekhludov s'était amusé à s'attendrir sur lui-même. Son expiation lui était apparue comme un jeu. Mais à présent, il éprouvait une véritable épouvante. Abandonner cette femme, c'était désormais pour lui chose impossible. Mais ce qui pourrait sortir de ses relations avec elle, il ne parvenait pas à l'imaginer. Devant la porte de la prison, il vit s'approcher de lui un gardien, un homme de mine sournoise et déplaisante, avec un type juif très marqué. Mystérieusement, le gardien lui glissa un papier dans la main. « Voici pour votre excellence, » murmura-t-il. « C'est une lettre d'une certaine personne. »« De quelle personne ?»« Que votre excellence prenne la peine de lire, elle verra. »« Une prisonnière de la section de politique. »« C'est moi qui les garde. » »« Alors voilà, elle m'a prié, s'est défendue, mais par humanité, » ajouta le gardien d'un ton hypocrite. Un peu surpris de voir un gardien se charger d'une pareille commission, Nekhludov mit le papier dans sa poche, et dès qu'il fut sorti de la prison, il s'empressa de le lire. On y avait écrit au crayon, à la hâte, les mots suivants. « Ayant appris que vous venez dans la prison et que vous portez intérêt à une détenue de la section criminelle, je désirerais vivement m'entretenir avec vous. Demandez l'autorisation de me voir, on vous l'accordera. Et je vous dirai bien des choses importantes, et pour votre protégé, et pour notre groupe. Votre reconnaissante, Vera Bogudushovska. » Où ai-je déjà entendu ce nom-là ? Se demanda Nekhludov, encore tout remué de souvenirs de son entretien avec Katyusha. Ah oui, je me rappelle. La fille du diacre, pendant la chasse à l'ours. Vera Bogudushovska était institutrice dans un village du gouvernement de Novgorod, lorsque Nekhludov était venu dans ce village avec des amis pour une chasse à l'ours. L'institutrice avait demandé au jeune homme de lui donner de l'argent pour qu'elle pût quitter son école et aller étudier à l'université. Nekhludov lui avait donné la somme qu'elle voulait, et jamais depuis lors il n'en avait plus entendu parler. Voici maintenant que cette personne lui réapparaissait sous la forme d'une détenue politique et qu'elle lui promettait de lui révéler des choses intéressantes sur la Maslova. Comme tout était simple et léger alors, et comme maintenant tout est lourd et compliqué. Nekhludov eut un vrai soulagement à se rappeler le jour où il avait rencontré la Bogudushovska. C'était la veille du carnaval, dans un village perdu, à 60 verstes du chemin de fer. La chasse avait été très heureuse, on avait tué 2 ours, on avait parfaitement dîné, et l'on s'apprêtait à repartir, lorsque le patron de la petite auberge était venu dire que la fille du diacre demandait à voir le prince Nekhludov. « Joli, » avait demandé l'un des chasseurs. « C'est ce que nous allons voir, » avait répondu Nekhludov. Puis, reprenant sa mine la plus sérieuse, il s'était levé de table, s'était essuyé la bouche, et était sorti, n'imaginant pas ce que pouvait lui vouloir une fille de diacre. Dans la chambre voisine se tenait, vêtue d'une grossière pelisse de paysanne, mais la tête coiffée d'un chapeau de feutre, une jeune fille maigre et osseuse, avec un long visage sans grâce, où seuls les yeux avaient quelque beauté. « Voici le prince, Vera Efremovna, » avait dit l'aubergiste. Et il les avait laissés seuls dans la chambre. « En quoi puis-je vous servir ?» avait demandé Nekhludov. « Voyez-vous, vous êtes riche. Vous dépensez votre argent à vous amuser, à chasser. Je sais cela, » avait repris la jeune fille avec un peu d'embarras. Et moi, je ne désire qu'une chose. Je ne désire que me rendre utile aux autres. Et je ne peux rien parce que je ne sais rien. » Ses yeux étaient pleins de franchise. Et tout son visage exprimait un tel mélange de résolution et de timidité que Nekhludov, comme cela lui arrivait souvent, s'était tout de suite mis à sa place, l'avait comprise et en avait eu pitié. « Eh bien, que puis-je faire pour vous ? Je suis institutrice ici. Je voudrais aller à l'université, et on ne me laisse pas y aller. Ou plutôt, ce n'est pas qu'on ne me laisse pas y aller, mais il faut de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Quand j'aurai fini mes cours, je vous le rendrai. Je me dis, les gens riches tuent des ours, enivrent des moujiks, et tout cela est mal. Pourquoi ne ferait-il pas aussi un peu de bien ? Je n'ai besoin que de 80 roubles. Si vous ne voulez pas, peu importe. Mais au contraire, je vous suis reconnaissant de l'occasion que vous m'offrez. Tout de suite, je vais vous apporter l'argent. » Nekhludov était rentré dans la salle à manger. Sans répondre aux plaisanteries de ses camarades, il était allé prendre son sac, en avait retiré 4 billets de 20 roubles et les avait portés à l'institutrice. « Je vous en prie, lui avait-il encore répété, ne me remerciez pas. C'est moi seul qui vous dois les remerciements. » Nekhludov avait maintenant grand plaisir à se rappeler tout cela. Il avait grand plaisir à se rappeler comment il avait failli se prendre de querelle avec un de ses camarades qui avait voulu tourner l'aventure en plaisanterie, comment un autre de ses camarades l'avait approuvé, et comment toute la chasse avait été heureuse et gaie, et comment il s'était senti joyeux la nuit en revenant du village à la station de chemin de fer. Les traîneaux glissaient par paires, sans bruit, le long de la route, entre les sapins tout couverts de neige. Dans l'obscurité brillaient d'une jolie lumière rouge les cigarettes allumées. Le garde-chasse, Ossip, courait d'un traîneau à l'autre, s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux. Il parlait aux chasseurs des élans qui, dans cette saison, erraient dans le bois, se nourrissant de l'écorce des trembles. Et il leur parlait aussi des ours qui, à cette heure, se reposaient au chaud dans leur profonde tanière. Nekhludov se rappelait tout cela, mais surtout, il se rappelait la délicieuse impression qui lui venait alors de la conscience de sa santé, de sa force et de son insouciance. Une légère pelisse, un air froid et sec, la neige fouettant le visage. Chaud au corps, frais au visage, et dans l'âme ni souci, ni remords, ni crainte, ni désir. Comme c'était bon. Et maintenant, Dieu, comme tout maintenant est difficile et pénible. Évidemment, Vera Efremovna était devenue une révolutionnaire et s'était fait mettre en prison pour ses opinions. Nekhludov décida qu'il demanderait à la voir. Peut-être lui dirait-elle, en effet, quelque chose d'intéressant sur les moyens d'adoucir le sort de la Maslova.